Jazz et vous.
Sorry, but jazz and what?
Parfois, vous reprendrez bien un peu de jazz.
Jazz et vous, l'émission jazz de Nadège Ledon, les jeudis soirs à 21h30 sur CFM Cahors.
Good evening, ladies and gentlemen. I feel pretty
and witty. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je suis Nadège Ledon, chanteuse, artiste-interprète de jazz, et je vous propose un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis soirs à 21h30. Ce rendez-vous, c'est Jazz et vous, l'émission jazz de Nadège Ledon sur CFM Cahors, que vous pouvez également suivre en podcast sur le site de CFM Cahors. Alors pourquoi cette proposition? Pourquoi cette envie de vous jazzer la vie? Eh bien, tout simplement parce que j'ai à cœur de vous partager ce qui m'anime, ce qui boue en moi, ce qui me fait vibrer depuis toujours, ma passion pour la musique et, plus particulièrement, pour le jazz. Vous l'aurez compris, c'est organique. Et pour ce faire, je vous propose un format tout particulier qui nous permettra d'explorer ensemble l'histoire du jazz. Alors, je vous rassure, hein, je pense que vous l'aurez déjà perçu, rien de barbant en perspective, non, loin de là. Une émission qui s'annonce vivante, vibrante, avec une histoire différente à chaque rendez-vous. Des anecdotes et puis une playlist dédiée qui s'étoffera au gré de mes envies, de mes inspirations, des liens qui viendront se greffer et puis, pourquoi pas, et là tout dépendra de votre écoute, des invités en direct pour toujours plus de jazz, d'anecdotes et une façon aussi de découvrir l'envers du décor d'un style musical et de la vie des musiciens. Alors je vous donne donc rendez-vous sur CFM Cahors tous les jeudis soirs à 21h30 pour Jazz et vous, l'émission jazz de Nadège Ledon. Avant de commencer, je tenais à remercier Stan Laferrière, alias Dr Jazz, dont le travail a inspiré en grande partie mon initiative. Stan Laferrière, pour vous le présenter brièvement, parce qu'on pourrait aisément lui dédier plusieurs émissions au vu de son parcours, Stan, c'est un jazzman français, musicien multi-instrumentiste, pianiste, guitariste, batteur, chanteur, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre. Il a écrit, joué et enregistré avec les plus grands, tels Wynton Marsalis, Benny Carter, Monty Alexander, Claude Bolling, Michel Legrand, Babi Crenart, pour ne citer qu'eux. Il a plusieurs fois été récompensé par l'Académie du Jazz et par les Django d'Or. Il est aujourd'hui professeur au Conservatoire et à l'Université d'Angers. Alors merci à toi, Stan, d'avoir été aussi réactif et encourageant quand je t'ai partagé mon projet, dont ton livre « 49 petites histoires du jazz » est la source documentaire. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Alors je vous propose en introduction de prendre un peu de recul pour observer l'évolution rapide, que dis-je, fulgurante, du jazz dans l'histoire de la musique depuis le Moyen-Âge. Petite parenthèse, le Moyen-Âge, c'est la période à laquelle on commence à écrire la musique, donc à laisser une trace écrite des compositions. Imaginez que l'évolution de la musique classique s'est étirée sur environ 5 siècles. Quand le jazz est, lui, passé de l'état primaire au stade avant-gardiste en seulement 70 ans. L'une des causes de cette fulgurance peut certainement résider dans le fait qu'à l'époque de l'éclosion du jazz primitif, donc vers 1900, la grande musique, entre guillemets, faisait déjà résonner la polytonalité et propulsait sur le devant de la scène des compositeurs très audacieux, comme Alexandre Scriabine, Igor Stravinsky et beaucoup d'autres. À partir des années 1910, l'arrivée progressive du phonographe, puis de la radio, allait accélérer la diffusion et donc favoriser la porosité, le mélange entre les différents styles de musique. Le jazz, s'abreuvant de la complexité harmonique de la grande musique, ou dirons-nous musique classique, quand cette dernière s'enrichissait de rythmes inconnus jusqu'alors, venant tout droit de la transe africaine. Pourtant, ces nouveaux médias attiseront bientôt les rivalités entre musiciens noirs et musiciens blancs. Alors bien que la naissance du jazz soit le fruit du métissage de différents courants musicaux, différentes cultures, traditions ou folklore, un courant principal se dégagera rapidement pour en donner les caractéristiques essentielles. Ce courant découlera en grande partie de la culture et des rites africains, oscillant entre adaptation à l'environnement et perpétuation des traditions ancestrales. Pour comprendre la gestation du jazz, sa naissance, ses particularités, son évolution, il faut garder à l'esprit ce qui constitue la toile de fond. Le besoin vital d'identité sur un sol inconnu et hostile. Puis, la revendication sociale de la communauté afro-américaine. L'héritage culturel, qui deviendra bientôt l'étendard d'un peuple déraciné, stimulera sans aucun doute le bouillonnement musical incessant que l'on va observer à partir des années 1900 et jusqu'aux années 1970, notamment dans les grandes villes et souvent sur fond de lutte raciale. Alors maintenant que je vous ai planté le décor, que vous soyez néophyte, simple amateur ou musicien chevronné, je vous propose un petit voyage chronologique qui fera parfois des pauses pour braquer le projecteur sur un fait marquant, méconnu, une personnalité importante ou pour expliquer les caractéristiques principales de la musique du jazz et ce qui en fait l'un des courants majeurs de la musique du XXe siècle. Le jazz influencera en effet, de près ou de loin, toutes les musiques qui suivront. Alors je vous fais une confidence. J'ai une devise dans la vie. C'est découvrir, apprendre et partager. Et même si j'ai été élevée au jazz, ce travail de découverte, je le fais pour moi d'abord, par amour et passion de la musique, mais je vais le vivre avec vous, chaque semaine, et portée par cette envie, cette soif insatiable d'apprendre et de me nourrir, je vais la partager en direct avec vous. Et je fais le vœu que mon enthousiasme et ma passion touchent quelques-uns d'entre vous, au point de suivre cette émission et de vous inviter à en découvrir davantage. Chiche ? Allez, c'est parti. Et avant de vous partager une première petite histoire du jazz, je vous propose d'écouter un extrait de l'album Jazz Seasons de Stan Laferrière, à la guitare et au cœur, avec la talentueuse chanteuse Zekira Yassa. Et comme cette saison, je vous propose d'écouter leur version de I'll Remember April, ce grand standard de 1941 composé par Jean de Paul, paroles Patricia Johnstone et Don Rey. This lovely day will lengthen to evening. We'll say goodbye to all we've ever had. Alone when we have walked together, I'll remember April and be glad. I'll be content. You loved me once in April. Your lips were warm and love and spring were new. I'm not afraid of autumn and her sorrow, for I'll remember April and you. The firewood window into glowing ashes, for flames and love live such little while. I won't forget, but I won't be lonely. I'll remember April and I smile.
Such a little while, I won't forget, but I won't be loved. CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
Vous écoutez Jazz et vous, l'émission jazz de Nadège Ledon sur CFM Cahors, tous les jeudis soirs à 21h30 et en podcast sur le site de la radio. Nous venons de nous régaler les oreilles avec la version de Stan Laferrière et Zeki Rayassa du grand standard I'll Remember April. Revenons donc à notre première petite histoire du jazz qui débute sur une question. Le quadrille à l'origine du jazz ? Le sillon laissé sur la piste généalogique du jazz peut certainement nous ramener à l'arrivée des colons européens sur le sol des Amériques au début du XVIe siècle. Mais sans remonter jusque-là, rendons-nous à la cour de Louis XIV pour comprendre cette question justement. Et cette danse, effectivement le quadrille, c'était une danse qui va participer malgré elle à la formation de l'embryon qui se métamorphosera un jour en jazz. Aussi appelé contredanse, le quadrille fut en vogue sous l'Empire, la Restauration et le Second Empire et perdurera pratiquement jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors après de nombreux conflits avec les colonisateurs espagnols et britanniques qui réduisent progressivement la superficie des territoires du Nouveau Monde, contrôlés par la France, et malgré des alliances sporadiques avec les autochtones amérindiens, Napoléon Bonaparte cède finalement la Louisiane en 1803 aux jeunes États d'Amérique. Au cours de cette période, les Français s'implantent durablement sur le territoire et malgré l'abandon de son contrôle, la région de la Nouvelle-Orléans restera sous influence culturelle française durant tout le XIXe siècle. Je reviens au quadrille, cette danse de bal et de salon, importée sur le continent américain par les colons français, va devenir le divertissement préféré des maîtres propriétaires dans les plantations du Sud. Il était traditionnellement dansé par quatre couples qui formaient un carré et effectuaient des pas de danse, des figures chorégraphiques et des changements de partenaires. Alors autant vous dire que pour les esclaves africains, ces danses maniérées paraissaient ridicules et empoulées. À l'occasion de leurs rares moments de détente, les esclaves tentaient de se remémorer et d'entretenir ce qui leur restait de tradition africaine en se livrant à des chants et des danses tribales. Lors de ces moments festifs, ils s'amusaient souvent à imiter la gestuelle des Blancs en caricaturant leur façon très européenne de danser. Et il n'était pas rare que les maîtres blancs assistent à ces fêtes et soient témoins de ces danses caricaturales, allant même jusqu'à récompenser les meilleurs danseurs par un gâteau. Et c'est ainsi que l'on donnera le nom de cakewalk, la marche du gâteau, à cette danse qui va rapidement se développer au sein de la communauté louisianaise. On raconte que vers la fin du XVIIIe siècle apparaît une danse blanche appelée gigue des nègres, ce qui suggérerait que le mélange entre les deux cultures commence déjà à se faire sentir. Une raillerie bilatérale, intercommunautaire, qui va être soutenue par les spectacles humoristiques minstrel shows, très populaires, et dans lesquels les minstrels blancs intègrent cette danse en se moquant à leur tour des esclaves noirs. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces minstrel shows par la suite. Ces spectacles vont rencontrer un tel succès dans tous les États-Unis que, comble de l'aberration, on verra bientôt sur scène des troupes de minstrels noirs se moquer d'eux-mêmes. Alors, simple dérision ou besoin de reconnaissance? En tout cas, en 1925, on trouve Josephine Baker qui caricaturera les danses tribales dans la Revue Nègre à Paris. En 1932, ce sera au tour de Louis Armstrong de chanter affublé d'une peau de bête dans A Rhapsody in Black and Blue. Mais le cakewalk, et plus généralement la musique noire, a déjà soif de reconnaissance, de légitimité, et veut acquérir ses lettres de noblesse. Il va progressivement se transformer en ragtime, musique savante, entre guillemets, écrite pour le piano. Cette transformation va s'opérer sous l'influence des marches militaires, notamment jouées par les marching bands, les orchestres ambulants, et les brass bands, orchestres de cuivre, mais également sous celle de la musique classique romantique, Chopin, Schubert, Schumann, et de la musique de genre pour piano, comme celle du compositeur américain Louis Moreau Gottschalk. Parmi ses pièces les plus célèbres figure la trilogie louisianaise. Alors, les titres de cette trilogie, c'est « Le bananier », la bamboula, la savane et le banjo qui sera une fantaisie grotesque. Le plus célèbre et le plus représentatif des compositeurs de ragtime est Scott Joplin, né d'un père esclave et d'une mère affranchie. Il composera en 1887 Maple Leaf. Alors je vais y arriver, c'est Maple Leaf Rag, qui sera publié 2 ans plus tard et dont la partition se vendra à plus d'un million d'exemplaires. Peut-on donc conclure que le quadrille soit à l'origine du jazz ? Alors sur le plan musical, non, c'est sûr. On peut seulement dire que son influence a été peut-être fortuite, sûrement sociétale. Le mimétisme et la moquerie interraciale ont engendré diverses manifestations sous forme de danse et de musique qui, en évoluant pendant près de 2 siècles, ont abouti au ragtime, l'un des genres musicaux de la fin du 19e siècle ayant directement contribué à faire naître le jazz. Le saviez-vous, Scott Joplin eut une heure de gloire posthume aux États-Unis et en Europe grâce à un film de 1973 réalisé par George Roy Hill et dont les acteurs principaux furent Paul Newman et Robert Redford. Et oui, vous l'avez peut-être deviné, le ragtime de Scott Joplin, intitulé The Entertainer, fut en effet utilisé pour la musique du film L'Arnaque. Voilà, il est désormais l'heure de nous quitter après ce voyage dans le temps et l'histoire du jazz. J'espère que votre écoute aura été captivée et que ce moment partagé vous aura été agréable. Moi, j'ai pris grand plaisir à cette toute première de Jazz et vous, l'émission jazz de Nadège Ledon. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain sur CFM Cahors, même heure, à vous de choisir l'endroit. Pour ma part, je choisis ce dernier morceau pour illustrer et conclure cette première émission. Il s'agit de Maple Leaf Rag de 1899, un des ragtime les plus célèbres de Scott Joplin, enregistré sur piano pneumatique par le compositeur.